Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? Moïse cria vers le Seigneur : Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse : Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Meriba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mise à l'épreuve, en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur.
Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur.
Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif.
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, était donc assis près de la source. C'était la sixième heure environ, midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » En effet, les disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu ?» ou bien, « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi, je vous dis, « Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. » Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Du rocher dans le désert jaillit l'eau qui donne la vie. Du puits de Jacob jaillit l'eau qui abreuve le peuple. Et du cœur de Jésus jaillit la source qui devient source nouvelle dans l'âme des personnes, à la seule et unique condition de croire en l'œuvre de Dieu. C'est donc la foi C'est la foi qui est la source de notre connexion avec Dieu. Et tout l'évangile ne cesse de nous montrer combien cette foi en Jésus nous apporte la vie en surabondance. Cependant, savons-nous voir l'œuvre de Dieu dans notre vie ? Et nous pouvons nous poser la question, mais quelle est cette œuvre de Dieu ? Ce dialogue que nous venons d'écouter, que nous pouvons bien sûr reprendre au long de la semaine, ce dialogue de Jésus avec la femme de Samarie est une anthologie, un exemple de toutes nos prières. Car nous demandons à Dieu de nombreuses choses pour nos intérêts terrestres. Et c'est bien ce dont nous avons besoin instantanément, et nous nous adressons au Seigneur. Seulement, parfois, nous ressemblons au peuple dans la première lecture. Nous demandons à Dieu, et puis nous ne recevons pas. Nous disons au Seigneur, mais pourquoi nous as-tu mis dans cette situation ? Ou même, nous pouvons nous dire, Seigneur, est-ce que tu es encore là ? Ou est-ce que tu existes ? Puisque si tu existais, ce malheur-là ne me surviendrait pas à moi. Et l'on cherche à trouver la manière dont il faut agir pour obtenir une réponse efficace à nos soucis quotidiens. Et la question de la Samaritaine, faut-il prier ici à Samarie plutôt qu'à Jérusalem ? Et la question revient vers nous. Faut-il prier dans une église ? Faut-il prier à Jérusalem ? Faut-il prier ailleurs ? Faut-il faire tel ou tel acte pour se connecter à Dieu ? Pour obtenir sa bienveillance ? Faut-il jeûner de telle ou telle manière ? Et nous cherchons des recettes. Certaines formes religieuses en donnent. Et elles attirent, car elles satisfont l'attente simpliste de la foi naturelle qui préfère se confier en une action plutôt qu'en la relation avec le surnaturel, avec la transcendance divine. Oui, nous voudrions un Dieu à notre image et à notre ressemblance, plutôt que nous élever à la réalité de Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. C'est bien ce qui rend le dialogue avec la Samaritaine si absorbant, si poignant. L'un parle des questions du corps, de ses besoins, l'autre parle des réalités divines. Deux univers qui ne satisfont pas les mêmes besoins essentiels. Et c'est là que nous entrons dans une distinction qui ne nous est pas familière. Le besoin essentiel du corps, nous le percevons assez vite. Mais le besoin essentiel de l'âme et de la vie surnaturelle nous est souvent caché, voire si éloigné que l'on ne s'en préoccupe pas. Peut-être parce que nous considérons l'œuvre de Dieu comme l'œuvre de Descartes, la chiquenaude initiale, et puis Dieu se préoccupe de rien du tout, ou comme d'autres, des créationnistes où Dieu est toujours à l'œuvre en permanence et nous ne sommes que les jouets de l'œuvre de Dieu, nous sommes ses esclaves finalement. Oubliant la parole de Jésus, le Père et moi, nous sommes à l'œuvre. Mais quelle est donc cette œuvre de Dieu ? C'est ce qu'il nous faut découvrir sans cesse. Et le dialogue entre le peuple hébreu et Dieu dans le désert, en écoutant Jésus échanger avec la Samaritaine, nous entrons dans l'univers de Dieu, l'univers divin. Car Dieu donne ce dont notre âme a besoin, qui est cette eau qui jaillit du rocher ou cette eau puisée au puits de Jacob. Dieu donne la vie à l'âme, Dieu donne sa propre vie, Dieu donne son amour, car Dieu est amour, nous dira en conclusion de toutes les lettres Saint Jean. Qu'attendons-nous de Dieu ? Qu'attendons-nous de l'œuvre de Dieu ? La femme de Samarie nous montre cet exemple. Elle découvre dans son expérience que Dieu est à l'œuvre en lui, faisant expérimenter le chemin du bonheur, le chemin du salut et d'une vie nouvelle. Elle a déjà ce chemin de la foi naturelle. Elle sait, quand le Messie viendra, il nous fera connaître toutes choses. Et comme elle le dit au Messie, elle entre donc dans la foi surnaturelle. Cette femme laisse donc son âme parler à Jésus, exprimer son attente profonde, la science de Dieu, connaître selon Dieu. C'était bien déjà ce que Adam et Ève avaient dans leur âme. Seulement, ils ont voulu prendre ce qu'on a appelé le fruit défendu. Ils ont voulu prendre la connaissance de Dieu plutôt que de la recevoir. Et cette femme de Samarie reçoit. Reçoit la connaissance de Dieu qui n'est pas une forme intellectuelle, mais une expérience. Et elle va pouvoir dire à ceux qui vont l'entourer, elle repart au village en laissant sa cruche, ses questions naturelles, ses besoins d'eau pour son corps. Elle part au village et elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et sous-entendu, sans me juger, sans m'enfermer, sans porter une étiquette, une cible sur le dos. Voilà quelqu'un qui m'a libéré parce qu'il m'aime. Alors, oui, nous découvrons que l'œuvre de Dieu n'est pas une action pour le bien terrestre de l'être humain, en plus de tout ce que Dieu a fait, mais une connexion de l'âme humaine pour que la connaissance de l'amour produise en nous un fruit de rayonnement, un fruit de propagation, et non pas d'accumulation de biens terrestres qui nous satisferaient. C'est une relation avec Dieu qu'il s'agit d'établir. Par son expérience de la rencontre avec Jésus, la Samaritaine est devenue source de lumière, source de vérité, parce qu'elle va rendre témoignage à cette œuvre de Dieu en son âme. Cependant, comme cela se réalise pour chacun et chacune d'entre nous, il ne peut y avoir de connaissance de Dieu sans expérience personnelle. Et c'est bien ce que les Samaritains vont dire. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit sur Dieu que nous croyons. Mais nous l'avons nous-mêmes entendu, nous avons expérimenté la rencontre avec Jésus et c'est bien lui le sauveur du monde. Oui, le passage finalement du témoignage des autres, de leur expérience de la rencontre de Dieu dans leur humanité, à notre propre expérience de Dieu, demande un cheminement, celui de la foi, qui est expérience, qui est connexion avec Dieu. Et les témoins de Samarie disent bien qu'ils croient non plus sur les paroles de quelqu'un, mais parce qu'ils ont rencontré Jésus, l'unique Sauveur, qu'ils l'ont vu et qu'ils l'ont entendu. Mais pour nous, qui sommes là aujourd'hui, nous qui vivons dans ce quartier, qui allons vaquer à nos occupations jour après jour, ferons-nous l'expérience du dialogue et de la rencontre avec Jésus? Nous pouvons déjà peut-être nous poser la question. Qui m'a parlé de Jésus pour que je sois là aujourd'hui? Qui m'a partagé son expérience de sa rencontre transformante avec Jésus et en rendre grâce? Et puis, dans notre manière d'être, là, à la messe, est-ce qu'on est dans l'ordre de la connaissance intellectuelle sur Dieu ou est-ce que nous venons pour une connaissance expérimentale de Dieu, d'abord par sa parole écoutée à chaque messe,
par sa parole reçue dans les sacrements et particulièrement dans l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà la parole de Dieu qui s'accomplit et que nous pouvons expérimenter dans la communion eucharistique, que nous pouvons expérimenter dans le pardon. Je te pardonne tous tes péchés. Que nous expérimentons dans la grâce du baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les paroles de Jésus. Et puis, dans notre manière de prier, est-ce que nous expérimentons cette connexion avec Dieu par sa parole, qui, le Notre Père, le Je vous salue Marie, les paroles de Dieu qui sont mises dans notre bouche et dans notre cœur pour nous adresser à Dieu? Oui. Comment expérimentons-nous la rencontre avec Dieu, sachant que, comme le dit saint Paul, il n'y a pas d'autre modalité que celle de la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Alors, cette rencontre avec la Samaritaine, cette rencontre dans le désert avec Dieu, d'un peuple assoiffé, eh bien, doit devenir pour nous aussi cette rencontre avec Dieu de notre propre soif, de notre propre faim qui habite nos corps, qui habite nos intelligences, qui habite nos âmes. Comment nous connectons-nous avec Dieu? Et si nous vivons cela à chacune de nos messes, alors nous pourrons nous dire que nous serons rayonnants comme cette femme de Samarie. Et les gens pourront venir rencontrer Jésus. C'est toute l'expérience du catéchuménat. Car en accompagnant aujourd'hui Massile et Alexandra, eh bien nous avons à leur faire découvrir tout ce qui nous anime de cette rencontre avec Dieu. Et en allant dans le quartier, en allant dans nos lieux de vie, que ce soit nos études, notre travail, notre famille, nous pourrons laisser ce rayonnement accomplir son œuvre pour que d'autres personnes puissent dire « Ce n'est plus sur ta parole que je crois, mais parce que moi aussi, j'ai rencontré Jésus. » Eh bien, demandons cette grâce au Seigneur pour notre communauté chrétienne de Nazareth, pour que notre témoignage, à travers les journées d'amitié qui vont arriver dans 2 semaines, puisse être aussi ce rayonnement d'une rencontre avec des personnes qui viennent de loin et qui puissent se dire « Mais comment se fait-il qu'il fasse si bon vivre à Notre-Dame de Nazareth ?» Que ce soit avec nos patronages ou avec chacun des groupes de la paroisse, que ce soit ceux de la réflexion catéchétique ou ceux tout simplement du jeu et du partage d'un goûter. Tout cela, ce sont des lieux où nous pouvons vivre l'évangile de la Samaritaine, parce que, étant habités par cette rencontre personnelle avec Dieu, nous pourrons en rayonner. Demandons cette grâce pour toute notre communauté chrétienne.